Il y a quelques semaines, j'ai eu la chance d'animer la soirée de Femix Sport. Femix Sport, c'est une association fondée en 2000 et qui a été l'une des premières à s'emparer des questions de mixité, d'égalité et de parité dans le milieu sportif. L'association, à travers des formations, des interventions ou encore des expositions, contribue à une meilleure représentation des femmes dans le sport et cherche à promouvoir les valeurs de mixité dans le mouvement sportif. Lors de cette soirée, Marie Patouillet, championne du monde de paracyclisme sur route et double médaillée olympique à Tokyo, ainsi que Juliette Gelin, libéro de l'équipe de France de volley, sont venues raconter leur préparation olympique et paralympique à quelques mois des Jeux de Paris. Ce fut un échange saisissant, enregistré en live, où elles ne se sont pas cachées sur les difficultés qu'elles pouvaient rencontrer lors de cette période exigeante physiquement et psychologiquement. Ça me touche particulièrement que vous puissiez avoir accès à ce moment d'une puissance et d'une authenticité rare où détermination se mêle avec désarroi. Merci à Femix Sport d'avoir permis à ce moment d'exister et n'hésitez pas à aller vous renseigner sur leur site internet et à adhérer à cette belle association qui promeut des valeurs qui me sont chères. Merci beaucoup à toutes les deux d'être là aujourd'hui. Je sais que vous avez des emplois du temps très chargés avec l'approche des Jeux et autres compétitions, parce qu'il n'y a pas que les Jeux olympiques et paralympiques non plus. Aujourd'hui, le thème, c'est justement la préparation pour la préparation de haut niveau, hein, disons les choses, à l'horizon Paris 2024 pour les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Je vous laisse prendre le micro. Je vais commencer par toi, Marie. Alors, forcément, on parle de préparation. Il y a aussi une première étape, parce que le fait est que là, pour le moment, la majeure partie des athlètes ne sont pas encore qualifiés pour les Jeux. Vous êtes en cours de préparation et donc les qualifications se feront plus tard. Justement, forcément, ma première question, ça va être celle-ci. Vous êtes en train de vous préparer. Vous ne savez pas encore, à l'heure actuelle, si vous serez qualifié ou pas. Marie, toi, comment est-ce que, justement, tu appréhendes cette période-là, sachant que je crois que c'est un comité, il me semble, qui détermine les athlètes qui iront aux Jeux paralympiques?
Oui, c'est une année un peu particulière. Enfin, déjà, bonsoir à toutes et à tous. C'est une année un peu particulière parce qu'on nous demande de sortir, si on va aux Jeux, la meilleure performance de toute notre vie. Et en amont, sur l'année juste avant, même les quelques mois juste avant, il faut qu'on sorte aussi un premier pic de forme pour montrer qu'on a notre place pour aller à ces Jeux. Ce qui, quand on fait du sport de niveau, est quand même assez compliqué d'organiser deux pics de forme dans une même saison. En fonction des sports, et en l'occurrence dans le cyclisme, c'est pas toujours évident de le faire. Donc c'est assez stressant. On sait qu'il y a des critères de sélection qui sont toujours un peu vagues. Ils sont définis, mais il y a toujours une petite dernière ligne qui dit « attention, si jamais changement ». Donc c'est toujours un peu flou, on ne nous les explique pas vraiment. Moi, dans notre cas, on n'a eu aucune réunion nous informant officiellement de ces critères-là. On sait juste que c'est sur Internet, qu'il y a 40 pages à lire, et c'est tout. Et ensuite, effectivement, on doit réaliser ces critères-là. Et ensuite, la fédération présente une présélection au comité paralympique qui, lui... avec l'ANS, il me semble, valide la sélection ou non.
Très bien. Oui, alors je n'ai pas précisé, effectivement, c'est aussi intéressant de vous avoir toutes les deux aujourd'hui, puisque toi, Marie, tu es plutôt dans un sport individuel, hein, qui est le cyclisme, cyclisme sur piste en l'occurrence, et sur route aussi, puisque du coup tu fais les deux. Et toi, Juliette, en sport collectif, le volley. Donc, et puis on parle également de paralympisme et d'olympisme. Donc effectivement, je trouvais ça super de vous avoir toutes les deux ce soir. Pour toi, Juliette, c'est un petit peu différent aussi, parce qu'on est dans un sport collectif. Vous êtes plusieurs sur ton poste. Mmh. Toi, tu es libéro. Bon, on sait que pour le coup que l'équipe sera qualifiée aux Jeux Olympiques, mais toi, tu n'es pas sûre d'en faire partie. Voilà, il va falloir prouver que tu es la meilleure sur ton poste. Comment tu gères ça ?
Comme elle l'a dit, effectivement, ça dépend aussi des dernières saisons qu'on fait et des résultats de comment on est en forme un peu avant les JO. Sauf que la vérité, c'est que je pense que le coach a déjà en tête son équipe, son 6 ou au moins son 7. Et il y a les aléas de la vie, surtout qu'on a une compétition de la Ligue mondiale un mois avant les JO. Et cette compétition, elle s'étend sur 3 semaines et on part jouer dans les 4 coins du monde. Et ça, on sait qu'il va se passer des choses, il y aura forcément des choses inattendues, donc tout le monde, au final, doit être prête parce que cette compétition, elle peut changer le roster, clairement, pour les 12 qui partent au JO. Donc, c'est assez stressant, effectivement. C'est des choses qui, Ben, je ne sais pas comment ça se passe, mais moi, personnellement, je sais que d'avoir un suivi psychologique, ça aide vachement. Parce qu'avant, on a une saison individuelle et où on a des objectifs personnels de performance, déjà pour soi, pour son futur et sa carrière pro. Et y a la pression de ces JO qui est totalement géniale parce que tout le monde veut participer à ces JO et avoir cette expérience et performer là-bas. Et après, il y a la réalité et toute la charge mentale qui est autour de ça, quoi.
Tu parles des Jeux. Toi, Marie, pour le coup, tu as déjà l'expérience des Jeux. T'étais à Tokyo il y a 3 ans. Ça va être potentiellement ta deuxième Olympiade. Est-ce que tu abordes ces Jeux différemment de cette première expérience que tu as déjà eue?
Oui. Enfin, là, je ne peux pas répondre autre chose que oui, étant donné que les Jeux de Tokyo ont été très surprenants. Le résumé est que je rentre avec 2 médailles, donc ce qui en soi est génial. La réalité est que je rentre avec un dégoût profond de mon sport, de ma fédération, et surtout un contre-coup des Jeux qui a été hyper dur physiquement et psychologiquement pour moi. Là, j'en ai discuté il n'y a pas longtemps avec mon entraîneur, ça fait que j'ai mis 2 ans à m'en remettre. J'ai retrouvé du plaisir sur le vélo que depuis septembre. Là, je viens de faire les championnats de France élite, donc valide. C'est la première compétition où je retrouve du plaisir à monter sur un vélo avec du stress. Ces Jeux, ils ont été résumés par une phrase qui est celle d'un des membres du staff. Quand j'ai demandé à avoir une ambiance un peu moins sexiste parce que j'étais la seule femme de l'équipe de France, on m'a répondu que si je ne voulais pas faire un sport sexiste, il fallait que je fasse un sport de fille. Et que quand ma seule réaction suite à ça, parce que j'avais énormément de colère, a été des pleurs, on m'a répondu qu'on ne pensait pas aussi faible. Je suis rentrée des Jeux vraiment déjà choquée, écœurée. On se rend compte qu'en fait, en amont, il y avait des tas de comportements qui n'étaient pas acceptables, que j'ai, par la force des choses, dû accepter. Parce que quand on cherche à viser un objectif aussi haut, on est prêt à faire énormément de sacrifices et même à mettre sa santé mentale en fait, de côté pour pouvoir arriver à ce sacrifice-là. Et quand je suis rentrée, j'ai eu ce déjeuner avec mon entraîneur, qui est Grégory Bauger. Et je lui ai dit, écoute, moi je veux bien aller jusqu'à Paris, mais j'irai à Paris en prenant la parole et en parlant, et en racontant ce qui s'est passé, en racontant ce qui se passe. Ça fait depuis Tokyo que je dis qu'on n'a pas de cuissard adapté à l'anatomie féminine, et là je parle bien de la Fédération Française Handisport et pas la Fédération Française de Cyclisme. Ce sont 2 choses différentes, et les matériaux ne sont pas les mêmes. En tout cas, les équipementiers ne sont pas les mêmes. Et ça fait 3 ans qu'on n'a toujours pas de cuissard pour femmes, alors on m'a promis une commande de 25 cuissards pour les championnats du monde à Rio. J'attends de les voir, mais on en est là. Et pour moi, on ne met pas les mêmes chances de performance. En tout cas, à Tokyo, c'était le cas. On ne met pas les mêmes chances de performance pour les hommes que pour les femmes.
Là, du coup, à l'aube de Paris, tu as changé des choses justement aussi dans ton entourage et dans ton entraînement ?
Dans mon entourage proche, non, parce que c'est des gens qui m'entourent et qui me soutiennent depuis le début. Grégory, ça va faire 5 ans qu'il m'entraîne, et tous les gens qui sont maintenant autour de moi, ça va faire au moins 3 ans qu'ils sont là. Après, avec la fédération, il y a eu des discussions, il y a eu des écrits, il y a eu... Mais c'est très lourd à porter, c'est-à-dire que moi, il n'y a pas 6 mois qui passent sans que j'ai pas un petit rappel me disant « Mais tu sais, Marie, c'est pas sûr que tu ailles au jeu ». C'est compliqué de préparer une paralympiade quand on a cette petite idée qui plane au-dessus de la tête, ni vue ni connue, comme ça. Quand pendant une année où on ne vous envoie pas des documents officiels pour bénéficier des aides, ça vous dégoûte en fait. Vous arrivez à un point où. Surtout que moi j'ai un métier à côté que j'adore parce que je suis quand même médecin généraliste. Et à un moment donné, je me dis, mais pourquoi je fais ça? Et ce qui est. Ma vision des choses, c'est que si je le fais, c'est parce que je veux pas que... En tout cas, je veux essayer de faire bouger les choses. Je m'arrête. Mes Jeux seront les derniers à Paris. Après Paris, je continuerai à m'investir dans la lutte contre le sexisme dans le sport et contre l'homophobie dans le sport. Mais je veux pas faire rêver ne serait-ce qu'une seule petite fille ou qu'un seul petit garçon sans raconter la vérité et sans essayer de faire bouger les choses.
T'as jamais eu peur, disons les mots clairement, mais de l'ouvrir ?
Ah, bien sûr que si. Il y a qu'à voir... L'intervention, quand je rentre de Tokyo, que j'étais sur cette scène-là, je tenais pas les mêmes discours. Quand je relis des interviews ou quand je réécoute des podcasts ou que je me revois sur des interventions filmées, bien sûr que mon discours, il évolue. Bien sûr que Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus libre, je me sens beaucoup plus détachée. J'ai eu la chance d'être entourée et d'être entourée de sponsors qui me soutiennent pour mes valeurs et pas pour mes médailles. C'est des sponsors qui sont aussi indépendants des fédérations, c'est-à-dire que le lien s'est fait que de eux à moi sans passer par l'intermédiaire. Et ça, c'est, je me rends compte que moi, c'est une chance qui est énorme pour moi de pouvoir prendre la parole parce que derrière, ils me soutiennent dans tous les propos que je peux tenir à ce sujet-là.
Bravo de le faire, en tout cas, parce que c'est important. Juliette, c'est vrai que du coup, tu as un profil un peu différent. L'équipe de France n'a jamais été qualifiée jusqu'à présent pour une Olympiade. Ce sera la première fois. Est-ce que le fait de ne pas avoir d'expérience dans l'olympisme, tu l'appréhendes ? Est-ce que c'est quelque chose de tout découvrir ? C'est quelque chose qui te fait peur ?
Oui et non, parce que justement, on sait que on a entendu beaucoup de choses sur comment les athlètes vivent leur première Olympiade ou Paralympiade et tous les pièges qu'il peut y avoir et surtout anticiper les pièges. Et en fait, c'est surtout ça l'objectif de ces Olympiades, c'est en fait d'avoir des interventions de coachs qui ont déjà fait les JO pour nous dire voilà, on sait que la plupart du temps, la première Olympiade, les gens, ils performent pas parce que ils sont là, ils regardent un peu à droite à gauche, ils profitent du village, du buffet, de machin, tout ça. Donc, en gros, on commence à nous mettre depuis déjà un ou deux étés tout ça en tête et là, on arrive au stade où, si on a match le lendemain à 9h, la cérémonie d'ouverture, vous pouvez oublier, quoi. Donc, mentalement, on est préparé à ça, on sait que, il va falloir y aller pour vraiment performer et jouer au volley et pas forcément pour aller demander des autographes aux stars qui sont là-bas, quoi. Donc, c'est l'état d'esprit dans lequel on est. Après, je pense qu'il faut savoir aussi profiter dans le sens humainement parlant, comment ça peut être enrichissant de s'inspirer en voyant des athlètes comme ça, pas forcément qu'en leur parlant ou en juste... vibrant de l'atmosphère autour. C'est vraiment, je pense qu'il y a vraiment plein de leçons humaines et sportives à apprendre dans ce style de réunion sportive. Mais c'est clair que oui, notre fédération nous y prépare et on sait qu'il va falloir vraiment rester concentré et fermer les œillets un peu pour pas éviter de se perdre, quoi.
Toi, à titre personnel, qu'est-ce qui prédomine ? C'est plutôt l'excitation ou l'appréhension ?
En fait, c'est dur de réfléchir à tous ces genres d'émotions parce que quand on ne sait même pas si on va y aller, il y a ce truc de on ne veut pas être sadomaso et se dire j'ai hâte de faire ci, de faire ça, et au dernier moment, tu n'y vas pas. Donc, les JO, c'est mon rêve depuis... Depuis que j'ai, je pense, 6 ans, les premiers JO que j'ai regardés, c'était... un peu plus après. C'est les premiers JO que j'ai vus, c'était ceux de 2012, où j'étais vraiment consciente, de ce qui se passait. Et j'ai toujours rêvé de faire ça, même avant que 2024 soit à Paris. Donc, c'est ça qui est encore plus énervant, c'est qu'il y a ce truc de... Je veux faire ça le plus... Enfin, c'est la seule chose qui me fait me lever tous les matins. Sauf que là, il y a ce truc de... C'est même plus une question de moi, c'est que c'est même... Enfin, en clair, c'est un choix d'un coach. Donc moi, j'ai beau mettre toute ma motivation, ma perf, que je sois bonne, que je sois la meilleure, pas la meilleure, c'est pas moi qui décide. Et donc, c'est entre les mains du coach. Et moi, j'attends. J'attends le verdict, la sentence un peu. Et après, je pourrais... respirer dans le sens où je pourrais vivre les émotions qui vont venir, mais en attendant, je suis obligée de rester impartiale et de me concentrer sur ma préparation individuelle parce que si on perf là 6 mois avant les JO, il y a plus de chances d'être sélectionnée que si.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
On fait pas quoi.
Tu restes focus sur ton premier objectif qui est déjà la qualification. Tu parles de l'aspect mental, ça c'est effectivement c'est assez compliqué des fois à gérer, hein, de ne pas savoir si on sera sur les compétitions, de ne pas savoir si on sera sur les jeux. Tu parlais également tout à l'heure de la préparation mentale. C'est quelque chose que, à titre personnel et dans l'équipe de France de volley, vous avez mis en place ?
Alors oui, je viens du tennis et c'est quelque chose que depuis qu'on est tout petit, on nous parle de prépa mentale. Sauf que quand t'as 6 ans et qu'on te parle de prépa mentale, tu sais vaguement ce que c'est et tu dis, il me saoule un peu, lui, à me parler de ce qu'il y a dans ma tête, j'en ai un peu rien à faire. J'arrive dans un sport comme le volley et là, il n'y a aucune conversation de prépa mentale. C'est est-ce qu'on a une salle de musculation? On n'est pas sûr, quoi. Et surtout pas pour les filles. Et après... petit à petit, avec cette ambition des JO, de machin, on a commencé à se rendre compte, notamment aux championnats d'Europe à Ankara 2019, qu'il y avait certains problèmes. Et que les problèmes, ce n'était pas forcément que physique ou technique ou tactique, mais qu'il y avait sûrement des problèmes mentaux. Pas mentaux, bien sûr, des problèmes de fou, on s'entend. On a pris en place dans notre staff, on a pris un prépa mental, un ancien joueur de beach et de volley, et qui vient avec nous depuis 2-3 étés maintenant sur certaines compétitions. Et il est vachement en contact avec certaines filles, c'est à la demande bien sûr. Sauf que ça c'est mon avis personnel, mais vu que l'équipe de France c'est quelque chose de particulier au volley, c'est vraiment il y a sa carrière pro en club et l'équipe de France. Moi, je pense que avant de faire appel à un prépa mental, il faut d'abord comprendre pourquoi on a ses pensées, pourquoi on est comme on est et accepter de la personne qu'on est et les valeurs qu'on a en fait, parce que je trouve ça vraiment important, les exercices de respiration ou les routines, les trucs comme ça, mais si on comprend pas le pourquoi on fait ça, ça pourra jamais tenir quand on est sous pression et qu'on a besoin de se raccrocher à quelque chose de calme. Donc personnellement, moi je vois une psychologue le plus souvent possible. Après c'est compliqué avec les emplois du temps, mais je pense que petit à petit on commence à s'ouvrir à ce monde-là et je suis contente parce que ça aide énormément, mais rien que pas forcément en tant qu'athlète, en tant que femme, jeune femme, c'est bizarre, mais d'avoir un soutien hors volet qui nous juge pas, qui nous écoute et où on peut oser en fait être faible ou montrer sa vulnérabilité quand tous les jours à l'entraînement on doit montrer que on est forte et qu'on est la boss du game, parce que c'est clairement ça. Donc c'est cool, ça fait du bien.
Toi Marie, tu travailles aussi avec un préparateur mental ou une préparatrice mentale et une psychologue. Tu parlais des moments compliqués après Tokyo, par exemple. Est-ce que tu t'es fait accompagner sur ce chemin-là ?
Mais je me faisais déjà accompagner en tant que médecin, parce que je trouvais qu'avec quand on débarque dans le métier de médecin et qu'on est jeune, on se retrouve dans des situations très lourdes. Et quand on est un peu... Enfin, moi, pour le coup, je suis hypersensible. Et revenir à la maison avec mes patients, c'était compliqué. Donc j'avais besoin de cet endroit pour ranger un peu toutes mes pensées. Et je l'ai gardé dans le sport. Et effectivement... Je pense que avant de faire la prépa mentale, le travail psy est très important, parce que quand on se retrouve confronté à des situations qu'on arrive à définir comme pas normales, c'est-à-dire qu'on arrive à dire que ça dépasse nos propres limites, c'est très compliqué de l'assumer, c'est très compliqué d'en parler, c'est très compliqué d'argumenter, et si on n'est pas sûr de qui on est, on n'arrivera pas à répondre à cette fameuse phrase de « Mais Marie, ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu des blagues salaces sur les femmes. Il y a toujours eu une sexualisation des femmes. C'est pour que les athlètes puissent décompresser et qu'ils puissent se sentir bien pour le lendemain, pour leur course. » Répondre à ça, ça nécessite que l'athlète qui est toute seule, en tant que femme, se connaisse ses limites, ait confiance en elle et en ses limites, et ait les arguments et les armes pour pouvoir répondre à ce boys band en fait, qui en chœur chante. Ça a toujours été comme ça. Et pour ça, malheureusement, oui, la cohérence cardiaque, la pleine conscience, la visualisation, c'est bien, mais ça résout pas qui on est et ça ne nous aide pas à savoir où est-ce qu'on veut aller vraiment.
On parle aujourd'hui, le sujet, c'est la mixité, hein, entre autres sujets. Je pense à l'équipe de France de volley, l'équipe de France de volley masculine, qui est championne du monde en titre, dont on a forcément beaucoup entendu parler. Il y a eu une grosse médiatisation aussi, forcément. Hein, c'était plutôt surprise, hein, disons les choses. Donc, il y a eu un grand élan autour de ça. Est-ce que vous avez aussi, déjà, comment vous l'avez vécu, vous, en étant l'équipe féminine, qui est assez invisibilisée, hein, disons les choses, et est-ce que vous avez une volonté, avec ces Jeux-là à Paris aussi, de rétablir une sorte d'équilibre ?
Forcément, c'est pas la première fois qu'on nous pose ce genre de questions.
J'imagine.
Et il y a la réalité et il y a ce qu'on aimerait dire, et j'aimerais dire oui, mais la réalité, c'est que ben, au ranking mondial, on n'est pas classé pareil, on ne fait pas encore des médailles comme ils en font, et on est inexpérimenté en termes d'Olympiade, on n'a pas l'expérience de cette compétition. Donc oui, on a envie de performer et on a envie de créer l'exploit. Maintenant, la réalité est tout autre chose. Et je pense que leur parcours est bien spécifique à eux, et je comprends que les médias essayent de faire des liens entre nous, mais je pense pas que on n'a pas du tout la même identité d'équipe, on n'a pas les mêmes joueurs, on n'a pas les mêmes joueuses, on n'a pas les mêmes caractères, et je pense que déjà ce serait bien si nous on arrive à créer notre propre histoire. Et surtout, je pense aussi que la médiatisation, elle ne doit pas forcément venir que des résultats, parce que je pense que ce que les gens se rendent pas compte, c'est que c'est-à-dire qu'en plus de toute la performance, on a ce fardeau derrière nous qui nous dit, bah, en fait, si on perf pas, notre sport ne sera jamais visible. Donc, tu te lèves tous les matins pour être la meilleure et tu n'acceptes pas la moindre erreur, tu n'acceptes pas la moindre contre-perf, parce que tu te dis, les gens qui sont venus nous voir pour la première fois, voir du volley féminin, ils ne reviendront plus parce qu'on a perdu. Donc, c'était pas le bon moment pour faire une contre-perf. Et je pense que c'est des sujets que pas beaucoup de sport masculin doivent avoir en tête, se dire ah mais pour mon sport il faut que on soit visible, oh, il faut que machin vienne voir nos matchs, mais comment c'est possible. Et je pense que les JO vont nous aider à être plus visibles, et ben c'est pour ça que je suis très honorée d'être invitée sur ce genre d'événements pour pouvoir en parler, parce que ben ça me tient énormément à cœur de faire voir les sports, et surtout les sports féminins, parce que je pense qu'on a tellement à montrer et à donner à n'importe qui, que ce soit les enfants, les adultes, et je trouve ça vraiment chouette qu'on puisse en parler ici ce soir.
Le message est passé dans l'assistance et dans le podcast aussi pour toutes les personnes qui écouteront l'épisode après. Donc merci pour ce message-là. Toi, Marie, donc on parle de mixité, on parle de parité aussi. J'ai entendu dire effectivement les Jeux à Paris seraient les premiers Jeux paritaires. Les Jeux olympiques seront les premiers Jeux paritaires et pas les Jeux paralympiques. Quel est ton point de vue là-dessus justement ?
Non, effectivement, les Jeux paralympiques ne sont pas concernés par cette mesure de parité. Ce que j'en pense, c'est que cette mesure de parité, elle est bien dans le sens où, en amont, quand on impose à une fédération de mettre autant d'hommes que de femmes, ça veut dire mettre autant de moyens chez les hommes que chez les femmes, parce que, on va pas se mentir, c'est un peu la honte d'emmener des athlètes non préparés ou moins bien préparés s'exposer devant le monde entier. Donc en fait, là, les fédés sont un peu obligés de mettre les mêmes moyens, de mettre les mêmes bulles de performance autour de leurs athlètes, quel que soit le genre. Donc je trouve que c'est plutôt positif. Nous, en tant qu'athlètes para, on n'a pas cette parité, ce qui fait qu'il y a toujours, pour moi, ce dysfonctionnement de préparation entre des athlètes masculins et des athlètes féminines. Toutes les stratégies pour aller chercher des quotas pour l'équipe de France est calquée sur l'équipe masculine et pas sur l'équipe féminine. Sauf que nous, c'est un peu comme le volley. Les hommes sont bien mieux classés au ranking mondial que les femmes. Et sauf que si on n'emmène pas plus de femmes que les hommes pour aller chercher des points supplémentaires, bah, on ne bougera pas le ranking. Donc ce qui fait que pour les Jeux, on va se retrouver avec une dizaine d'athlètes masculins pour maximum 4 femmes dans l'équipe de France de paracyclisme. Et donc, il y a quand même encore une grosse inégalité d'accès à la performance pour les femmes. Et je trouve qu'il y a un exemple qui est parlant, c'est qu'à Tokyo, il y a eu énormément de médailles paralympiques, de titres paralympiques français, que des hommes.
Comment faire ? Alors ça, c'est une vaste question, mais selon toi, par quoi commencer pour faire évoluer ça, justement ?
Bah, je pense que ça, on pourrait refaire tout un sujet, voire même un séminaire entier
sur la question. On reviendra une prochaine fois, si vous nous acceptez.
Il y a l'éducation, la sensibilisation, mais il y a aussi les athlètes. J'aimerais bien voir des athlètes prendre la parole, que ce soit des hommes, des femmes, avoir le courage de décrire ce qui se passe, de pas mettre sous silence, de pas mettre sous le tapis. Juste de parler et de témoigner en soi, ça, c'est pas mal de témoigner quand on raconte la vérité. Ne serait-ce que de témoigner, ça ferait exister le problème, et à partir du moment où le problème existe, on peut commencer à chercher des solutions. Si on ne fait pas exister le problème, bah, à quoi bon chercher des solutions, surtout quand ça ne fait pas bouger un peu le confort des personnes qui bénéficient un peu de ces privilèges-là à l'heure actuelle. Donc, pour moi, il y a de l'éducation à faire, et l'éducation, ça passe par le témoignage, et j'aimerais bien voir les athlètes témoigner un peu plus, sans qu'ils aient peur des éventuelles répercussions qu'il peut y avoir au niveau des sponsors ou des fédérations.
Merci à vous de témoigner, en tout cas, parce que c'est ce que vous faites aussi aujourd'hui, donc c'est très précieux. Une dernière question pour clore cet échange. J'ai pas envie de vous demander quels sont vos objectifs pour les Jeux. Je vais vous demander ce qu'on peut vous souhaiter pour les mois à venir.
Merci. De la réussite forcément dans nos perfs, parce que pour l'instant on est deuxième du championnat, donc on vise de tout gagner cette saison, gagner les playoffs, gagner la Coupe de France, et pour l'instant on est pas mal placé pour aller en quart de finale de la Coupe d'Europe, donc on fait notre petit bout de chemin, on écrit l'histoire du club sur Paris, donc très fier de ça, et de la santé aussi, physique et mentale, serait pas mal, et beaucoup de joie sur les terrains.
Marie,
Moi, c'est ma dernière année dans le haut niveau, donc je souhaite de profiter de chaque moment que je suis en train de vivre, que ce soit à l'entraînement ou en compétition, et je suis convaincue que si j'arrive à garder ce plaisir que j'ai retrouvé jusqu'au bout, et que je suis sélectionnée pour les Jeux, la performance aux Jeux sera de loin ma meilleure.
Merci beaucoup à toutes les deux. Comme on est en public, je voulais proposer si jamais des personnes avaient des questions, parce qu'autant en profiter, on a du monde devant nous. Est-ce que certains avaient des questions pour Juliette ou Marie ?
Ouh !
Pas de questions ? Très bien. Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux. Merci d'être venues aujourd'hui. Et pour vos mots qui sont très précieux, et c'est aussi la preuve que des associations comme la Femix Sport ont un rôle important, et que c'est important que des associations comme celle-ci existent. Donc merci à vous deux, et merci à la Femix, et à très bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Championne du Monde sur les plateformes d'écoute et à nous laisser commentaires et étoiles sur Apple Podcasts. Et rejoignez-nous sur Instagram pour plus de news et infos sur le sport féminin. À bientôt!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.